principale menace serait la désespérance. Leur peur principale à tous est la foi. Mais nous devons faire en sorte que ce qu'ils vivent a pouvoir un retentissement en Occident. Non pas pour les dresser contre des non-chrétiens ou les dresser contre des non-catholiques, ni le synode, ni l'œuvre d'Orient ne s'inscrivent dans une espèce de logique de choc des religions, de choc des civilisations. Ce n'est pas notre point de vue. Nous pensons que ce n'est pas cela qui conçoit quelque chose. Cependant, il est bon de savoir que ce que vivent les chrétiens en Orient, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, a immédiatement un retentissement auprès des chrétiens d'Occident. C'est tout simple, mais je crois qu'il faut le mettre en place et il faut le vivre. Le principal atout, je le dis vraiment, c'est pas de la langue de bois, c'est pas du mysticisme. Ce qui est toujours impressionnant pour un latin qui va dans ces pays, c'est l'extraordinaire foi de ces chrétiens d'Orient. Nous avons besoin d'eux dans le témoignage de foi qu'ils nous donnent. Quand nous pensons aux églises du Proche et du Moyen-Orient, aux églises orientales, il faut éviter de penser à elles uniquement en termes de passé, parce qu'elles ont un passé prestigieux qui a construit l'Église universelle pour leur part, donc évidemment qui nous inspire beaucoup de respect, ni en termes de difficultés. Il faut aussi que nous sachions en parler en termes d'espérance, en termes de mission, en termes d'avenir, en termes de modernité. Il faut éviter de les enfermer, nous, uniquement dans ces deux éléments, les problèmes et leur passé, mais en même temps dégager des chemins d'espérance et de modernité. Or, je pense qu'il y en a. Le premier élément d'avenir pour ces églises, c'est leur foi. Quand vous êtes chrétien au Proche ou au Moyen-Orient, vous n'êtes pas chrétien du bout des lèvres, vous êtes réellement un chrétien engagé, et je pense que ça, c'est la première force de ces églises. Deuxièmement, il y a le fait que les chrétiens, depuis très longtemps, se sont positionnés comme étant un petit peu au service des pays dans lesquels ils se trouvent. Aider les chrétiens en Irak, par exemple, c'est aider l'Irak. Et par conséquent, je pense que le rôle qu'ils peuvent jouer dans ces régions, dans ces pays, me paraît tout à fait considérable.
Qu'en est-il des liens avec une diaspora qui, parfois, est même plus nombreuse que les communautés locales?
Nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi une immigration dans ces pays. Savez-vous, par exemple, qu'en Arabie saoudite, il y a 2 millions de catholiques qui sont immigrés pour l'Arabie. Et donc, nous devons déjà être aux côtés de ces immigrants. Le Moyen-Orient n'est pas simplement une terre d'où les chrétiens partent, c'est aussi une terre dans laquelle les chrétiens entrent. Mais pour ceux qui partent, d'abord, on comprend pourquoi ils partent. Ils partent parce qu'ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'assurance sur l'avenir. D'abord, le premier devoir, c'est pour nous, c'est de les écouter, de les comprendre avant de porter un jugement sur cette décision. Bon, deuxièmement, ceux qui partent, il n'est pas automatique qu'ils partent définitivement. Ils peuvent partir parce que les situations sont difficiles, ils peuvent partir parce qu'ils saisissent des opportunités de formation, d'études ou de travail. Peut-être qu'ils retourneront un jour dans leur pays quand les situations sont plus favorables. Donc, c'est pas parce qu'il y a une diaspora qu'elle est nécessairement définitive. Et troisièmement, vous avez raison de poser la question, cette diaspora doit être l'un des premiers vecteurs de solidarité avec les pays d'où elles sont issues. Et par conséquent, il faut que nous aidions ces diasporas à aider leurs églises. D'ailleurs, généralement, ils s'en sentent proches. Donc il faut favoriser ces liens. Ces diasporas doivent rester liées spirituellement, affectivement, ecclésialement aux églises dont ils sont issus et ne pas se latiniser trop vite.
Et sur place, comment avoir un vrai dialogue avec l'islam quand le déséquilibre est si important?
L'islam, d'abord, il est divers. Il y a des minorités musulmanes dans certains pays musulmans. Les minorités chrétiennes ne sont pas les seules minorités. Il peut y avoir, par exemple, une minorité sunnite dans un pays à majorité chiite, une minorité chiite dans un pays à majorité sunnite, etc., etc. Il y a des minorités. Et précisément, aider cette minorité qui est la minorité chrétienne, c'est aussi aider ces pays dans la manière dont ils prennent en compte leur minorité. Donc il y a aussi un débat intra-musulman. C'est pas simplement un face-à-face entre les chrétiens d'une part et les musulmans d'autre part. Il y a un débat interne aux chrétiens, il y a un débat interne aux musulmans. Je pense qu'il faut que nous sachions distinguer, sans séparer, mais distinguer et articuler ce qui est de l'ordre du dialogue avec les musulmans, dialogue religieux, dialogue culturel, qui doit être en vérité. Il y a une autre réalité tout à fait différente, c'est d'écouter et de relayer si des chrétiens sont en situation de détresse par rapport à des actes qui seraient faits par des groupes musulmans, nous devons être capables d'en parler. Et j'avouerai qu'il y a une troisième piste également, c'est qu'est-ce que nous faisons avec des musulmans qui ont envie de devenir chrétiens? Nous savons très bien que nous sommes mal à l'aise avec cette question, parce que si nous en parlons trop, nous mettons en danger la sécurité de ces personnes. Mais nous ne devons pas avoir peur, nous, d'avoir le souci de ces personnes. Vous voyez que ce sont trois registres différents qu'il nous faut articuler. C'est pas parce que nous avons envie de dialoguer avec les musulmans. Ce qu'il convient de faire, dialoguer dans un respect mutuel des personnes, que nous devons taire les situations de certains chrétiens qui auraient à souffrir d'une situation politique ou économique qui leur serait discriminante.
Est-ce que également les divisions et les rivalités entre les différentes communautés chrétiennes entre elles n'est pas également un obstacle qu'il faudrait surmonter?
Absolument. Et il y a non seulement des rivalités entre différentes églises chrétiennes, mais il y a simplement déjà différentes églises catholiques. Il va de soi que le synode doit aider à favoriser la communion entre les différentes confessions catholiques. Ce serait déjà un pas considérable. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme parfois nous les latins, nous avons tout de suite un petit peu envie de faire, c'est-à-dire de ramener toutes les choses à l'unité sous une seule structure, parce que l'idée d'une diversité d'églises, d'une diversité de structures nous met un peu toujours mal à l'aise, et donc nous voudrions tout de suite latins nous pouvoir ramener les choses à l'unité. Peut-être faut-il entendre ce que vivent ces églises, entendre leur histoire, entendre leur patrimoine, liturgique, spirituel, et donc ne pas traiter le problème comme nous pourrions traiter une question intérieure à l'Église latine. Cependant, il va de soi que la communion entre ces confessions est l'une des conditions de la survie des Églises dans le prochain Moyen-Orient, c'est tout à fait clair. Et d'autre part, la manière dont nous saurons faire vivre cette communion entre ces confessions catholiques sera également un très beau chemin pour vivre un œcuménisme avec les communautés chrétiennes non catholiques, qui se vit très largement déjà au niveau, j'allais dire, du peuple chrétien. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, des familles, au niveau des villages, il y a déjà une forte reconnaissance, respect mutuel, communion entre les chrétiens d'église catholique et les chrétiens d'église non catholique. Il faut maintenant arriver à le traduire au niveau et des théologiens et des responsables pastoraux. Oh,